Calade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine. Auditrices et auditeurs de Caladma Radio, bonjour. C'est l'heure de retrouver votre émission Couleurs du Monde. Et pour ce mois de novembre, on va parler du jeu vidéo. Avec une invitée, alors qui a la particularité aussi d'avoir rejoint notre petit groupe. Et donc, que vous réentendrez par la suite au cours de cette année de Couleurs du Monde. Elle réinterviendra. Tu peux nous dire comment tu t'appelles ?
Bonjour, je m'appelle Claire.
Merci Claire.
Bonjour Claire, t'as quel âge?
C'est malin. Vous l'avez reconnu bien sûr, c'est le grand retour du prof Patrick.
Bonjour tout le monde.
Et on est très content de le retrouver si vite. Et justement, alors en plus de faire la technique, prof Patrick, eh bien c'est toi qui vas nous faire la chronique Nuances du Monde.
Si tu me le demandes gentiment.
Eh bien pour le plus grand plaisir de ta plus grande fan number one, c'est moi, c'est parti pour les Nuances du Monde.
Les couleurs du monde.
Allez, c'est parti.
Alors, prof Patrick, de quoi tu vas nous parler ?
Je vais vous parler du traitement médiatique fait récemment au projet de taxe Zucman. Vous savez, le projet de taxe Zucman, c'est Gabriel Zucman, c'est un économiste très réputé, qui propose de créer un impôt sur le patrimoine à hauteur de 2%, mais uniquement pour les personnes dont le patrimoine excède 100 millions d'euros.
Ah, mais dis donc, mais c'est une bonne nouvelle, non?
Tout le monde n'apprécie pas. Ce projet a été lancé en mars et bien sûr retoqué à l'Assemblée. Il a suscité et ce qui est marrant, c'est qu'il a suscité récemment un déchaînement médiatique gigantesque, qui m'a paru intéressant d'analyser en quelque sorte.
Eh bien, tout à fait.
Alors ainsi, pour la seule semaine du 25 septembre dernier, on a les trois hebdos de droite de référence en France, Le Point, L'Express et Challenge, qui font tous un dossier de plusieurs pages en mode « Pourquoi la haine des riches ?»« Taxer les riches, la folie Zucman, etc. » Sur LCI, par exemple, on a Thierry Breton, à la fois chef d'entreprise et homme politique, qui attaque en indiquant que ce projet n'est pas économique mais politique, ce qui dans sa bouche est assez rigolo, que Zucman a été refusé comme enseignant à Harvard parce que ses travaux manquaient de sérieux, c'est ce qu'a dit Breton. Alors apparemment, ce n'est pas l'opinion de Joseph Stiglitz, Angus Deaton, Esther Duflo, Eric Maskin, Abhijit Banerjee, Christopher Pissarides et Jean Tirole. Ils sont tous prix Nobel d'économie et soutiennent tous l'attaque Zucman, je le dis entre parenthèses.
Ok, Mathieu Afford, bien fait de le dire.
Sur BFM, Édouard Leclerc est monté au créneau, de même que le patron de BPI France, qui l'a traité de communiste.
La blague.
Mais le pompon revient à notre milliardaire national Bernard Arnault, qui est le patron d'LVMH, et qui a traité Zucman de militant d'extrême gauche et a parlé d'une pseudo-compétence universitaire qui fait largement débat.
Ouais, il est bien déchaîné, l'ami Bernard Arnault.
Ouais, problème, c'est que Zucman n'a jamais milité à l'extrême gauche, n'a jamais milité du tout. Et que pour ce qui est de ses supposées pseudo-compétences, ben, il a reçu la médaille Clark en 2023, qui récompense les meilleurs économistes de moins de 40 ans qui travaillent aux États-Unis pour ses travaux sur, devinez quoi, la fiscalité.
Ouais, ok, d'accord. Ça en jette un peu quand même, je pense que.
Oui, mais non, mais c'est un économiste extrêmement solide dans son domaine. D'abord, il s'agit pour autant pas d'occulter les débats intellectuels et techniques qui se déroulent autour de ce projet de taxe. Ceux-ci sont intéressants, mais c'est un autre champ qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est la violence des réactions qui montre qu'autre chose est à l'œuvre.
Ouais, effectivement, les médias se sont déchaînés du coup contre Zucman, mais pourquoi cette violence verbale et pourquoi maintenant, puisque la taxe, elle est en discussion depuis mars dernier.
Tout à fait. En fait, la réponse est simple, c'est à cause d'un sondage. Un sondage IFOP paru mi-septembre qui annonce la chose suivante. 86% des Français sont en faveur de cette taxe. Tenez-vous bien, 75% des électeurs du Rassemblement National sont pour. 89% des électeurs Les Républicains à droite sont pour. 92% des électeurs de Renaissance Macron sont pour. Et là, j'ai cité que la droite et l'extrême droite, doutez bien qu'à gauche, ils sont encore plus pour.
Il y a des chances, en effet.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé mi-septembre? Tout le monde est consterné par ce débat. Enfin, je dis tout le monde, certains. Donc, branle-bas de combat dans le petit monde qui contrôle les médias en France. Ce que j'ai évoqué précédemment, c'est la réponse à ce tremblement de terre. Il faut reprendre en main le bon peuple de France, lui montrer la voie de la sagesse. Mmh. Et donc, passer le message, Zucman est un affreux gauchiste, il n'est pas sérieux scientifiquement, il ne connaît rien au monde de l'entreprise, etc.
Mais ça nous rappelle un autre moment médiatique, cette affaire.
Exactement.
2005, non ?
Exactement. 2005, tout à fait. Campagne pour ou contre le projet de constitution européenne. À l'époque, 80% du paysage médiatique a matraqué pendant des mois les arguments du oui. Et devinez quoi ? C'est le non qui l'a emporté.
Oui.
Les maîtres des médias ne veulent plus revivre ça. Ils ont retenu la leçon. Le matraquage doit être encore plus intense. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui.
Mais c'est qui, en fait, ces maîtres des médias ? Parce que c'est étrange qu'ils
soient
tous d'accord.
Ils ne sont pas nombreux. Hein. Il y a 9 personnes. Mais par contre, ils tiennent à eux 9, 90% des médias. Mm-hmm. Et hop, attendez, surprise, ils sont tous milliardaires.
Ça alors ?
C'est étonnant. Donc, ils sont éligibles à la taxe Zucman. Donc, ils sont jugés partis.
Eh bien, tout à fait.
Alors, en vrac, je ne les cite pas tous, mais bon, Vincent Bolloré, hein, par exemple, qui mène sa croisade politique pour l'installation d'un pouvoir d'extrême droite en France. Bernard Arnault, qui trouve formidable ce qui se passe aux États-Unis depuis la victoire de Trump. Rodolphe Saadé, Daniel Kretinsky, la famille Dassault, etc.
Ah ouais, d'accord. Et du coup, alors, leur argument principal à ces médias milliardaires, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils avancent, finalement ?
C'est l'idée que cette taxe va faire fuir les milliardaires et décourager l'innovation et la création de richesses.
Alors, c'est toujours la même, hein ?
J'ai déjà fait une chronique en mars dernier, Nuance du Monde, Prof. Mm-hmm. Patrick, sur le sujet. Je la mettrai en lien, où j'ai donné des éléments de réponse à cette objection. Mais on va ajouter un petit complément aujourd'hui.
Eh ben, ok, vas-y.
Je pose une simple question. Est-ce que dans les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années de 45 à la fin des années 70, on a manqué d'innovation, de grands chefs d'entreprise et de création de richesses ? C'est une bonne question.
C'est une bonne question.
La réponse est simple, non, on n'en a pas manqué. Côté les grands chefs d'entreprise, on a eu tout un tas de monde aux États-Unis, des industries extrêmement puissantes, donc ça ne manquait pas. Côté création de richesses, on peut le mesurer par le taux de croissance annuel de l'économie. Les taux de croissance économique européens et américains dans ces décennies-là étaient entre 3 et 5% par an.
Okay.
Et pourtant, dans ces années-là, et j'ai pu être précis dans les années 70, la tranche de l'impôt sur le revenu aux États-Unis la plus élevée était de 90%, messieurs, dames.
Uh-huh.
À cette époque, les hauts revenus étaient ultra imposés.
Ok, et ça n'a donc pas empêché la création de richesses.
Ça
n'a pas
empêché l'innovation et la création de richesses, exactement.
Tout à fait.
Et c'est à partir des années 80 qu'elle a donné à changer et que l'imposition des hauts revenus, grâce à Reagan au départ, puis ensuite tous les autres gouvernements américains qui ont suivi, a été largement diminuée. La France a longtemps résisté, mais elle a suivi à partir des années 2000 et l'Europe avait suivi bien avant.
Et il y a une raison à ça ?
Ben oui, mais ça s'appelle un rapport de force.
Ok.
Qui est passé du côté des
ultra riches,
des chefs d'entreprise, des multinationales, des marchés financiers, etc.
Très bien.
Et ça, combiné avec la révolution des marchés financiers, justement, ça a fait exploser le nombre de milliardaires dans le monde.
Ok, donc le résultat, c'est finalement plus de milliardaires, en fait.
Oui, mais on va voir. Est-ce que ces milliardaires ont, grâce à l'innovation, boosté l'économie mondiale ? Parce que c'est un peu le cœur de l'argument qu'on nous donne.
Ben, tout à fait.
Eh bien, aux États-Unis, la croissance moyenne annuelle a été longtemps autour de 3,2% jusqu'à la fin des années 90 et elle a chuté à moins de 2% à partir des années 2000. Et elle est à 2,3% sur la moyenne des années 2010.
D'accord. Donc ça n'a pas du tout augmenté. Au contraire,
non,
ça a bien diminué.
Ça a à peu près résisté jusqu'à la fin des années 90, mais après, elle s'est effondrée, mais elle a baissé fortement. En France, ça a été beaucoup plus rapide. La croissance est passée de 2,7% en moyenne chaque année dans les années 70 à moins de 2% dans les 40 années qu'on suit. Donc les innovations de ces milliardaires qui ont multiplié comme les champignons après la pluie, qui étaient tous sous-imposés fiscalement, n'ont pas empêché, loin de là, la baisse de performance des économies américaines et européennes.
Finalement, ça fonctionnait mieux quand ils étaient taxés, ces gens-là.
Exactement.
Conclusion ?
Eh bien, conclusion, elle va être un peu brutale. Hein. Ces gens-là roulent pour eux, mais pas pour l'intérêt national ou pas pour l'intérêt général. Et la meute médiatique et politique est à leur service.
Merci, prof Patrick.
J'en ai terminé.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditeurs et auditrices de Calade, après cette chronique Nuance du Monde du prof Patrick, revenons à notre sujet qui est le jeu vidéo. Je vous ai annoncé une invitée, Claire. Est-ce que Claire, tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai 28 ans. Je suis professeure d'anglais et de français et j'ai de multiples passions, dont une depuis longtemps, qui est le jeu vidéo.
Super, ça tombe bien parce que c'est notre sujet et c'est pour ça qu'on t'a invitée. Alors, ça va se dérouler en trois parties. Première partie, on va faire un petit tour de l'histoire du jeu vidéo et un petit peu comment ça se passe, un état des lieux aujourd'hui du jeu vidéo, des profils de joueurs, etc. Ensuite, on verra les aspects positifs et les aspects moins positifs, un peu négatifs, du jeu vidéo. Et pour finir, une troisième partie qui va plaire à notre prof Patrick, c'est les modèles économiques.
Ouah, trop fort, les modèles économiques. Bravo Claire.
En lien avec les jeux vidéo. C'est parti pour la première partie ?
Très bien.
Allez, alors qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur l'état des lieux des jeux vidéo actuellement ?
Alors le jeu vidéo, il faut savoir que ça a commencé dans les années 50, alors on se précipite pas.
Hein. Les années 50 ?
Années 50, c'est des étudiants dans des labos, dans des universités aux États-Unis qui s'amusent à faire joujou sur des oscilloscopes.
D'accord.
Et qui commencent à découvrir qu'ils peuvent interagir et créer des petits jeux avec. Et on a un premier jeu qui s'appelle Tennis for Two, par exemple, où on a juste des barres sur un oscilloscope qui se renvoie là-bas.
Ouais, on y a tous joué, en fait.
Enfin, ça, peut-être pas tous, mais tout le monde, on voit un peu
à quoi
ça ressemble.
Ouais, on voit très bien ce que c'est.
Alors, dans les années 50-60, c'est à peu près des déclinaisons de ce truc. C'est des jeux de tennis, des jeux de foot, mais ça se ressemble tout plus ou moins.
Ok. Ouais.
Dans les années 70, on a vraiment l'arrivée du jeu vidéo comme industrie et ça se démocratise, ça arrive chez les gens avec la première console grand public qui est l'Atari 2600.
Ok. Ah,
Atari. Ouais.
Et oui, Atari qui était à la base une boîte japonaise qui faisait des jeux de cartes.
Ok.
Donc ils étaient déjà dans le jeu.
Jolie diversification.
Exactement. Et surtout l'apparition des bornes d'arcade.
Ok, les bornes d'arcade, on voit bien ce que c'est.
Qui venaient concurrencer un petit peu les jeux dans les bars.
Ça, c'est dans les bars, ouais, c'est ça. Qui deviennent des salles spécialisées ensuite.
Exactement, qui sont devenues des salles spécialisées avec des licences très connues. Dans les années 80, là, c'est l'explosion du jeu vidéo, dans le sens où on a des consoles majeures qui sont arrivées, notamment la NES.
Ah bon ? C'est quoi ce truc ?
Nintendo Entertainment System, qui est la plus
console
Nintendo qui a vraiment rendu accessible aux jeunes.
Ouais, c'est la première Nintendo, finalement.
Une des premières, tout à fait. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on voit apparaître des petits personnages qu'on connaît bien. Mario, le petit personnage Link dans La Légende de Zelda, qui va sauver la princesse.
Très
puis, on a un jeu très, très connu qui est Tetris.
Ouais. Ah oui, bien le fameux Tetris.
Le fameux Tetris.
Et dis-moi, Claire, Pac-Man, c'était quand ?
Pac-Man, c'est pareil, c'est à peu près fin
époque,
des années 70,
ouais, c'est ça,
années 80. Pac-Man, il était disponible notamment sur les modèles d'Atari avec le joystick. C'est un jeu très simple en pixel, mais qui marche très bien, notamment sur arcade. Puis les années 90, là, on a des grosses avancées. On a l'arrivée de la 3D. Donc là, on commence à avoir des possibilités de jeu dans des mondes avec des décors, avec des personnages.
Ouais, parce qu'il y a un boost de la puissance de calcul colossal qui va permettre vraiment d'ouvrir ça de façon extraordinaire dans les années 90.
Ça devient du coup plus joli en fait.
Ah bah c'est plus beau,
c'est un autre
plus
monde.
On peut faire beaucoup plus de choses.
Oui, bien sûr.
Le jeu qui a révolutionné la 3D à son époque, c'est Tomb Raider. On joue
Lara Croft.
Personnage qui avait été designé très sexy parce qu'à l'époque, les joueurs de jeux vidéo étaient des joueurs, jeunes,
des garçons qui aiment les bonnes meufs bien roulées.
On joue sur sex appeal et on essaie de vendre tout ça. Il y a des campagnes de pub, vraiment énormément de campagnes de pub autour de Lara Croft.
Ouais.
Et puis surtout vers la fin des années 90, on a le début des jeux en ligne.
Et oui.
On commence à avoir Internet et
tout c'est début d'Internet,
le début des jeux en ligne.
Et donc on va commencer à pouvoir jouer avec d'autres personnes réelles, en fait, c'est bien ça ?
Oui, alors avant, pour pouvoir jouer avec d'autres personnes réelles, il fallait jouer ce qu'on appelle en réseau LAN, c'est-à-dire qu'on était tous dans la même pièce et on était connectés.
On branchait les consoles ensemble.
Voilà, au même routeur.
Ok.
D'accord.
Maintenant, on peut le faire de chez soi.
Mm-hmm.
Et ça, c'est la révolution.
Ben oui.
Et les années 2000, c'est l'avènement du jeu en ligne massivement multijoueur, notamment avec la sortie de World of Warcraft en 2004, qui a été une révolution pour les joueurs.
C'est les MMORPG, c'est ça ?
MMORPG.
Alors moi, j'y connais rien, mais je connais le sigle comme ça.
Donc MMORPG, tout à fait, ce sont des RPG, donc jeux dans lesquels on incarne un personnage, mais massivement multijoueur.
Ouais, okay, MMO, c'est massivement multijoueur.
Exactement,
c'est
en ligne.
Ouais.
Okay. Online.
Online.
Mais les années 2000, ça marque aussi deux révolutions majeures dans le jeu vidéo. C'est l'arrivée du jeu sur mobile. Puisque évidemment, on a les téléphones.
Oui, bien sûr.
Les premiers jeux
sur
mobile.
Quand les smartphones arrivent.
Voilà. Et le premier jeu sur mobile le plus connu, c'est Snake.
D'accord. Et oui, le petit serpent.
On a quasiment tous
les jours
après. Moi, je sais. C'est un petit serpent qui, il faut qu'il aille manger des trucs. Puis à chaque fois qu'il mange, il grandit. Mais il ne doit pas se toucher lui-même.
Voilà. D'accord. Alors, il est très connu. Et oui, c'est le serpent qui ne se mord pas la queue.
C'est ça,
il
ne faut pas qu'il se morde la queue, le serpent.
Alors, Snake, il est très connu parce qu'en fait, il était disponible sur tous les Nokia 3310.
C'est ça.
Et comme le Nokia 3310 est un des mobiles les plus vendus de sa génération, et bien beaucoup de gens jouent à Snake.
Tout à fait.
C'est aussi la dématérialisation des supports du jeu vidéo. Mmh. Et avant, il fallait aller dans son magasin du coin, prendre son CD-ROM ou prendre son jeu. Maintenant, on peut acheter directement son jeu en ligne.
Sur Internet,
et oui, en fait,
télécharger.
À partir de la console. Exactement, on télécharge à partir du PC, à partir de la console, à partir du mobile. Et ça change toute une économie.
D'accord.
Et puis après, on a les années 2010. Donc, le jeu en ligne, c'est une institution, c'est bien posé. Et on a l'émergence de l'e-sport.
Oh là, alors ça, je sais pas ce que c'est.
Le e-sport, donc i c'est un e, mais dit à l'anglaise, ça se prononce i,
tiret
sport.
Et oui, le jeu électronique.
Explique-nous ce que c'est.
Sport électronique, en fait, c'est l'idée qu'avant, vous aviez des compétitions de foot, des compétitions de hand.
Voilà.
Maintenant, vous avez des compétitions de joueurs professionnels qui sont payés pour ça, qui s'entraînent sur des jeux vidéo.
D'accord.
Ça vient de la Corée. Notamment sur StarCraft 2, qui est un jeu de tactique très avancé. Et là-bas, ça existe même depuis le milieu des années 2000.
D'accord.
Joueurs e-sport là-bas sont des vraies stars. Et ça se démocratise chez nous.
Donc en fait, ce sont des sportifs, mais qui jouent finalement en ligne. Et c'est physique quand même ou pas? Je ne me rends pas compte.
Alors ça peut être physique dans le sens où si on adopte de mauvaises postures, ça donne lieu à des dommages. Hein,
D'accord.
Tout ce qui est au niveau d'arthrose juvénile ou de tendinite.
Parce qu'ils passent des heures et des heures, les professionnels.
Ils passent des heures à faire des mouvements répétés. Et c'est surtout que c'est très très fatigant d'un point de vue cérébral.
Ok.
Mais ça, on va en reparler justement des inconvénients, dans les inconvénients
dans la,
les avantages.
Dans la deuxième partie de l'émission.
Dis donc, dans ton petit déroulé, t'as un peu laissé de côté les jeux sur console quand même. Tu nous as pas parlé des grands combats entre Sony et Microsoft?
Alors, la bataille des consoles, notamment entre les trois grands constructeurs
qui
sont
plus
Microsoft avec la Xbox, Nintendo avec ses multiples consoles qui est la Switch en ce moment et la PlayStation de Sony, c'est un combat qui s'est tenu des années 90
à aujourd'hui. Oui, tout à fait. En parallèle, ça reste quand même... Mais c'est un monde qui est en régression un petit peu, je crois.
C'est un monde qui est un peu en régression, la console, parce que maintenant, pour le prix d'une console, parce qu'on a un PC très performant et on peut faire plein de choses avec un PC, alors qu'avec une console, on va pas faire du très
compliqué. Ce qui n'était pas le cas autrefois, en fait. Hein, jusqu'aux années 2000, ils avaient un petit peu l'avantage, mais après, ça a été terminé, quoi, par rapport aux ordinateurs.
Exactement. Puis avoir un ordinateur dans les années 90, il fallait voir la tête de l'engin.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Ouais, bien sûr. Bien
C'était
sûr.
Des vieux trucs
voilà.
Donc, avec une mauvaise qualité d'image.
Là, c'est en train de perdre un peu de part de marché, mais c'est vrai que c'est toujours un marché très, très concurrentiel. Et donc, les années 2010, il faut qu'on parle aussi quelque chose. Vu que le PC s'impose un petit peu comme l'outil des hardcore gamers, des vrais gamers, avec arrobase à la place du A, comme on aime le dire, et ben, y a la scène indépendante du jeu vidéo qui s'impose, puisqu'il y a des gens qui commencent vraiment à lancer leurs jeux vidéo, à créer leur petit studio, même à faire des jeux vidéo eux-mêmes, et à les commercialiser.
Okay. Et là, t'es dans les années 2000, là, 2010,
c'est l'explosion du jeu indépendant.
Okay. C'est des startups, finalement, c'est
Des startups, des gens qui ont monté un jeu à 3 ou 4, etc.
Donc certaines vont devenir des groupes très puissants ensuite, non?
Il y a des studios qui étaient totalement indépendants et puis qui ont rencontré le succès et qui deviennent de très grosses machines. Par exemple, je pense... au studio CD Projekt Red, qui est un studio polonais.
D'accord.
Et qui est connu pour avoir adapté la licence Witcher, donc le sorceleur,
qui
est une licence de roman fantasy polonaise.
Pas terrible. Mais les jeux vidéo sont paraît-il exceptionnels.
Ils sont très très bien. Et en fait, à la base, c'était des...
Alors, je connais pas.
C'était surtout un petit studio polonais perdu au fin fond de la Pologne.
Ouais.
Et maintenant, c'est l'entreprise polonaise la plus cotée en bourse.
D'accord.
Okay.
Voilà.
Wow.
Alors, ok, très bien. Où est-ce qu'on en est là?
Eh bien, ça va être le moment de faire une petite pause musicale. Hein.
Ouais, ok. Allez,
c'est parti. Pause musicale.
We're no strangers to love. You Calade.
Les couleurs du monde.
Auditrices et auditeurs de Calade Ma Radio sur 100.9, on est toujours dans l'émission Les couleurs du monde et on vient d'écouter une première pause musicale. Est-ce que tu peux nous dire, Claire, de quoi il s'agit ?
Qu'est-ce que c'est que cette vieillerie ?
Alors, cette chanson, c'est Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Et en fait, cette chanson, pourquoi je vous la passe ? Parce que c'est ce qu'on appelle un mème. Donc un mème,
d'accord,
c'est quelque chose d'identifié sur Internet qui est réutilisé pour la référence. Mm-hmm. Et il faut savoir
tout
que
tout le monde a la ref.
Exactement.
Mais c'est quoi la ref alors ?
Et la ref, en fait, Rick Astley, cette chanson en soi, elle n'a rien à voir avec le jeu vidéo, sauf il y a quelques années, à l'époque où on attendait la sortie du trailer du jeu GTA 4,
ah oui.
San Andreas.
Okay. Énorme blockbuster.
Énorme blockbuster du studio Rockstar Games, qui est connu pour produire des jeux exceptionnels. Mm-hmm. Et en fait, les joueurs étaient sur les dents et attendaient le trailer.
C'était un peu tendu.
Et donc, sur les forums, en fait, le but, c'était de troller, donc, c'est-à-dire de faire croire que le trailer était sorti. Et puis, quand les joueurs impatients si on cliquait sur le lien, et ça les envoyait sur la musique de
cette musique.
Rick Astley. Et en fait, c'est devenu depuis quelque chose qu'on utilise pour troller les gens. Ils attendent avec impatience quelque chose et en fait,
bon,
on leur
met pardonne alors.
On le saura du coup.
Voilà.
Allez, on continue.
Et justement, on attendait avec impatience d'en connaître un petit peu plus sur les types de jeux vidéo.
Oui, on parle de jeux vidéo aujourd'hui. Avec Claire, notre invitée.
Alors, les types de jeux vidéo, il y en a beaucoup. Hein. C'est un petit peu comme le cinéma, c'est un petit peu comme la musique. Quand on met les doigts dedans, il y a 12 000 genres et sous-genres. Mais j'ai essayé de...
Je pensais
les
doigts dans la prise.
Les doigts dans la prise...
C'est marrant, prof Patrick.
Les doigts dans la prise, vaut mieux éviter. Le type de jeu vidéo le plus joué au monde, ça sera tous les jeux de ce qu'on appelle les shooters. Donc les jeux où on va tirer, souvent avec des armes à feu, on va pas se mentir.
Tout ce que je déteste.
Il y a 51% des joueurs qui jouent à des shooters. Donc ça va être des licences comme Call of Duty, Counter-Strike, Valorant. Ce sont des licences qui sont très appréciées parce que, en fait, c'est des parties rapides. Ouais. Et c'est très très défouloir en fait.
Voilà, des charges d'adrénaline.
J'ai déjà vu ça, moi je trouve ça infernal, je déteste.
C'est des jeux de garçons.
Mais je comprends que oui, je comprends quand
même.
Des copains qui aiment beaucoup ça.
En fait, c'est des jeux où on peut vite s'amuser et surtout c'est des jeux où il y a une courbe de progression qui est très très importante.
Ouais.
Et donc c'est assez satisfaisant, on va dire, d'augmenter en termes de niveau.
On peut progresser rapidement. D'accord.
Alors, dans les shooters, on a un sous-type de shooter, mais qui est très intéressant, qui s'appelle le Battle Royale. Alors, le Battle Royale...
Ah, alors ça, j'en ai déjà entendu
inspiré
parler.
Inspiré du film Battle Royale japonais. Mm-hmm. L'idée, on largue 100 joueurs sur une carte et on va voir le...
Quel survie. Il faut qu'il n'en reste qu'un.
Okay. On démarre littéralement en slip dans certains jeux. Et on va essayer d'aller récupérer de l'équipement qui traîne sur la carte. Et on va s'équiper. Et le but, c'est d'essayer de survivre.
Ça a inspiré les Hunger Games, quand même, les Battle Royale.
Évidemment.
Parce que c'était avant,
Mais c'est surtout que le jeu le plus connu Battle Royale, c'est Fortnite. Fortnite, le phénomène Fortnite. C'est un Battle Royale qui est devenu un phénomène de société.
Et donc là, concrètement, si tu meurs, tu meurs, c'est ça ?
Si tu meurs, ça arrête la partie. Donc des fois, tu peux mourir au bout de 2 minutes.
Ouais.
Des fois, c'est randonnée simulator. Tu vas te promener pendant 15 minutes, ramasser des objets, tu ne croises personne et d'un coup, tu meurs parce qu'il y a un mec à l'autre bout de la carte qui t'a vu avec un sniper.
Très bien.
Oui, ça peut être très frustrant. Un autre type de jeu qui est très connu, c'est le RPG. Donc, c'est un jeu dans lequel on va incarner un personnage et plutôt qui est tourné soit action, soit aventure.
Ouais. Mm-hmm.
Le plus connu, c'est The Legend of Zelda. Donc, Zelda, jouer notre petit personnage qui doit aller sauver la princesse. Mm-hmm. Mais on a parlé de The Witcher qui est un petit peu plus orienté dark fantasy adulte. On a aussi tout ce qui s'appelle les Souls-like. Inspiré du jeu Demon's Souls, en fait, on va jouer un personnage dans un monde un peu médiéval, fantasy. Et le but, c'est d'aller tuer des monstres pour découvrir des nouveaux endroits dans la carte et avancer dans une quête.
Okay. Tu connais Clair Obscur, justement ?
Oui, Clair Obscur.
C'est
alors
incroyable.
Ça, c'est un RPG au tour par tour développé par un studio français, Cocorico.
C'est magnifique.
Et on prie pour qu'ils aient le prix du jeu de l'année cette année au Game Awards, qui se tiendront en décembre.
Franchement, moi, à l'heure actuelle, là, avec mon compagnon qui a joué à ce jeu, on est en train de se regarder toutes les cinématiques du jeu. Moi, je n'ai pas joué, mais je le trouve incroyable. C'est vraiment, pour le coup, c'est hyper artistique. C'est de l'art, quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi.
C'est considéré comme le chef-d'œuvre de cette année.
Je suis totalement d'accord avec ça. C'est incroyable.
La musique, tout est...
Ouais, tout est dingue dans ce jeu, vraiment.
Tout est super. Alors, Clair-Obscur, c'est donc un RPG d'aventure au tour par tour, qui est très très beau. Après, on va avoir tous les jeux, on va créer des trucs et bac à sable. On appelle ça des sandbox, des bac à sable. Donc, Minecraft,
oui,
c'est ça.
Mes enfants aiment ça. Chez leur papa, ils jouent à Minecraft.
Oui, c'est ça. On est dans un univers avec des cubes. Le but, c'est de se créer des aventures. Et puis, il y a aussi le jeu Roblox que nos petits jeunes adorent.
Mon fils joue à ça,
Voilà. C'est des jeux quand même qui suscitent beaucoup la créativité, donc qui sont pas mal.
Ouais, j'allais dire, enfin, moi, chez moi, ils ont pas accès, mais chez leur papa, ils y jouent. Et pour le coup, je trouve que c'est des jeux que je trouve intéressants pour mes enfants. Moi, j'ai pas d'écran chez moi, mais il me semble qu'il y a vraiment une plus-value à jouer à ces jeux-là pour des ados, on va dire. Voir, voilà, mon petit qui a 9 ans, il joue à Minecraft chez son papa, et il crée vraiment des trucs, il se fait vraiment un univers.
Oui, on fait ce qu'on veut. Enfin, moi, j'adorais faire de la déco dans Minecraft, créer des maisons, aller chercher des ressources pour créer des maisons. Donc, c'est hyper enrichissant. Bon, après, on a les traditionnels jeux de sport, parce que pourquoi sortir jouer au ballon quand on peut jouer à FIFA
Quand on peut rester le cul sans devant un écran à jouer à FIFA.
Alors, je dis ça, je rigole parce que j'ai jamais trop compris l'intérêt de FIFA, mais voilà, il faut savoir que c'est un des jeux les plus achetés. Y a aussi Rocket League, qui est un jeu de foot avec des voitures, qui est très connu. Il y a des compétitions. Il y a NBA 2K, où on peut incarner ses joueurs préférés de basket.
Américain, NBA.
Ça, évidemment, américain, avec des beaux maillots, etc. Donc ça, le sport, c'est des trucs assez accessibles. Il y avait Wii Sport sur la Wii.
Oui, alors moi, j'ai eu ça, parce que pour un temps, quand même, j'ai eu un enfin, c'était pas une télé, mais on avait un écran avec la Wii, et c'était rigolo. Mais bon, tu vois, je m'en suis défaite, parce que je jouais pas assez.
Ouais, bah écoute, c'est parce que tu fais partie des gens qu'on appelle les casus dans le milieu.
Casus, donc c'est casu casual.
Pour casual gamers, donc les joueurs occasionnels.
Ouais, complètement.
L'occasion de casu, fait la...
alors j'assume totalement.
Et moi qui ne joue jamais, alors je suis un quoi, moi?
Bah, tu n'es pas un joueur.
Je n'existe pas.
Tu n'es pas considéré comme faisant encore partie de cet univers. En fait, les joueurs casual, donc occasionnels, c'est des gens qui vont jouer parce qu'il y a une occasion qui se présente. Ils sont dans une soirée, on fait un party game, ils vont jouer.
Ouais, bah c'est ça.
Ils jouent avec leurs enfants parce que leurs enfants jouent, mais voilà, c'est pas des gens qui ont le jeu vidéo comme occupation principale.
Voilà, c'est ça.
Après, on a les joueurs plutôt réguliers. Très régulier,
comme toi par exemple,
voilà, qui ont jeux vidéo dans leur centre d'intérêt, mais ça va pas être le centre d'intérêt principal, ils ont d'autres choses autour.
Ils ont une vie à côté.
Et à part, on a le hardcore gamer, on a donc ce qu'on appelait aussi le no life.
Je vois très bien.
Ils ont pas de vie à côté,
alors ça existe, alors ça a tendance un petit peu à changer maintenant,
faut espérer,
heureusement. Mais le hardcore gamer, lui, c'est son occupation principale, c'est son loisir principal, et surtout il connaît les dates de sortie de ses jeux préférés ou de ce qu'il attend. Il cherche du challenge et de la nouveauté en permanence, et donc souvent il va tester d'autres choses, ou alors il est très concentré sur un seul type de jeu ou un seul jeu et il est incollable.
Et est-ce qu'il travaille à côté, ou est-ce que c'est le monde du jeu vidéo son job, tu sais?
Des fois,
proportion,
ils peuvent bosser mais à côté de leur boulot ils font que ça.
Peu importe, mais c'est vraiment c'est vraiment leur loisir principal. Et ils sont très bons en général.
Ah bah oui, tu parles. Donc, hein. C'est jouer des experts.
Les hardcore gamers, par exemple, ils vont être très intéressés par des jeux comme les MOBA. Donc les MOBA, ce sont notamment League of Legends, Dota 2, où on joue en équipe. Il y a de la stratégie, il faut savoir maîtriser un personnage. Il y a énormément de connaissances à avoir pour être bon. Et on a aussi les jeux de simulation gestion. Alors, jeux de simulation tout bête, il y a les Sims.
D'accord.
On simule la vie. Mais après, il y a des jeux de gestion super avancés. Donc, je vous parlais de StarCraft, où en fait, on est sur des planètes aliens et le but, c'est de monter des bâtiments pour récupérer les ressources.
Je me souviens de ce petit jeu. C'est vieux quand même.
C'est vieux, StarCraft. Mais il y a Age of Empires, c'est un peu le même principe, mais avec des civilisations réelles. Et c'est vrai que ça, c'est des jeux qui demandent énormément de connaissances, de tactiques.
Ok. Eh bien, écoute, merci Claire pour ce petit passage en revue. On va passer à notre deuxième partie et on va commencer par voir justement les avantages, les aspects positifs du jeu vidéo. Qu'est-ce que ça apporte de bon finalement ?
Alors, on va voir que les points positifs, ce qui est marrant, c'est qu'on va aussi les retrouver dans les points un peu négatifs.
Ah ah !
Eh bien oui, alors les points positifs quand même, Déjà, la première chose, c'est le développement des compétences cognitives.
Alors, tu peux développer un peu et préciser.
Alors, cognitive, ça va être tout ce qui est fait comme association dans le cerveau. Mmh. Et ça va aider le cerveau à travailler la coordination entre la main et l'œil. Les réflexes et la capacité d'attention. Parce que mine de rien, quand il faut être super concentré pendant une partie d'une heure, la capacité d'attention, elle est accrue.
Parce que moi il me semblait que de trop jouer aux jeux vidéo et d'être trop sur les écrans, ça nuisait à la concentration.
Parce qu'au point négatif, on est dans les points positifs.
Oui, non, mais je
sais
bien.
Un peu d'organisation. L'organisation.
Mais j'entends bien. Mais est-ce que du coup, ça développe des capacités attentionnelles ou est-ce que tu vas être très concentré sur ton jeu? Et à ce moment-là, mais qu'à côté, ça peut...
Alors, les capacités attentionnelles qui sont développées dans le jeu vidéo, ce n'est pas du tout les mêmes que celles qui sont sollicitées pour lire un bouquin.
C'était un peu ma question. Ok,
pas du tout.
Très bien.
Mais ça, tu le développeras dans les points négatifs.
Oui, tout à fait. Non, mais je voulais juste avoir confirmation que, en fait, tu vas développer tes capacités attentionnelles dans le monde du jeu vidéo, finalement.
Et exactement, dans un monde où tout bouge vite.
Oui.
Et il faut réagir très, très vite. Donc là, ça va plutôt être de l'ordre du réflexe.
OK.
Mais ça développe aussi beaucoup la prise de décision.
Oui.
Parce qu'en fait, ce qui fait la différence entre un très bon joueur et un bon joueur, c'est... Il y a les réflexes, certes, mais surtout la prise de décision.
OK.
Et ça, ça demande des heures de jeu, ça demande des heures de connaissances. Ça fait travailler aussi le leadership. La résolution de problèmes et surtout la gestion du stress.
Ok.
Parce que quand on se retrouve tout seul contre 4 ennemis, la tension monte et il faut être capable de garder son sang-froid pour prendre la bonne décision pour neutraliser 4 personnes potentiellement.
Et est-ce que ça, pour le coup, dans la vie réelle, le joueur qui a l'habitude de gérer ce genre de situation stressante, de prendre des décisions dans le jeu vidéo, est-ce que dans la vraie vie, ça va aussi développer ces compétences-là?
Ça peut se retrouver notamment sur les joueurs qui sont capables de prendre le leadership de l'équipe, donc prendre les décisions. Il faut savoir qu'arriver à un certain niveau, notamment en e-sport, en fait, il y a le capitaine de l'équipe, un petit peu comme au football, qui va faire ce qu'on appelle les shot calls. Donc les shot calls, c'est à un moment, il faut prendre une décision. C'est à lui qu'on va s'en remettre.
Ok.
Et parfois, il peut se tromper.
Oui.
Mais en général, c'est lui qui va donner les décisions. Et surtout, tout le monde ne parle pas en même temps parce que sinon, on ne s'entend plus.
Oui, on lui laisse vraiment le leadership.
Exactement,
c'est le capitaine d'équipe. Un petit peu, on pourrait dire, les gens qui bossent en mode projet avec un chef de projet, une petite équipe, peuvent tout à fait, je pense, avec certains jeux vidéo, s'entraîner et développer de ce type de compétences qui leur sont utiles.
Ah bah, c'est oui, c'est
surtout quand ils sont dans des moments tendus, de timing serré, etc., etc. Enfin, je sais pas, c'est une idée qui me passe par la tête, mais je vois, c'est des compétences qui leur seraient utiles, je pense.
Ouais, qui peuvent développer finalement en jouant aux jeux vidéo, c'est ça que tu veux dire.
C'est un peu le même genre de compétences que par moment, ils vont avoir...
Bien sûr.
Ils vont utiliser. Ok, très bien.
Après, il y a...
Toujours les points positifs, là ?
Oui.
Ouais, vas-y.
Oui, toujours. Alors, il y a la compétence sociale qui se développe, évidemment. Il faut arriver à communiquer avec ses partenaires de jeu, si on joue en ligne. Mm-hmm. On fait partie d'une communauté, donc des fois, ça nous amène à échanger pour avoir des informations sur notre passion, etc. On peut participer à des rassemblements en rapport avec le jeu vidéo, des conventions, etc. Ça aide certains à sortir un petit peu de leur bulle et à trouver des gens qui aiment les mêmes choses.
Bien sûr.
Après, on a tout ce qui est sentiment d'accomplissement, de l'estime de soi. Quand on monte un personnage en compétences, qu'on gagne des compétences et qu'on arrive à monter un certain niveau, on est content.
D'accord.
Et puis surtout, ça sert à se défouler. Ça a un effet très cathartique, le jeu vidéo. Quand on va taper sur des gens dans un jeu vidéo, c'est des gens qu'on tapera peut-être pas dans la vraie vie. Certains s'en servent vraiment comme un défouloir.
Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des points positifs ?
Alors, là, le dernier point positif, c'est quand même que c'est un super moyen, un super média pour instruire. On n'y pense pas.
Pour instruire, c'est-à-dire ?
Par exemple, tous les cocos qui ont joué à Assassin's Creed quand ils étaient plus jeunes et qui ont voulu rentrer en fac d'histoire parce qu'ils ont adoré jouer à Assassin's Creed et se balader dans la Florence médiévale, des Médicis.
Avec tous les contextes culturels qu'ils intégraient dans chaque jeu. D'accord, très bien.
Exactement.
Ok, très bien.
Effectivement. Et du coup, Claire, donc tu nous as dit là qu'il y avait un certain nombre de points positifs. Est-ce que tu peux nous dire aussi s'il y a des choses plus négatives, des inconvénients à jouer aux jeux vidéo ?
Passons aux points négatifs.
Les points négatifs. c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui se retrouvent dans les points positifs et les points négatifs.
Explique-nous ça.
Les points négatifs, et bah justement, cet effet de catharsis là. De... Alors, il y a des jeux vidéo qui sont extrêmement violents. Hein. Moi, je joue à des jeux vidéo où, quand même, on démembre des aliens, il y a du sang partout. Ça va dans tous les sens. C'est très violent. Chez beaucoup de personnes, ça ne va pas les désensibiliser à la violence. Par contre, chez certaines personnes qui ont des fragilités psychiatriques, psychologiques, ça va les désensibiliser. Mais c'est un petit peu comme quand on est exposé à des scènes de violence, etc.
Au cinéma ou au dans cinéma, des séries, je ne sais quoi,
dans des séries. Donc, ça peut avoir cet effet-là. Alors, attention, il faut bien se rendre compte que... oui, les jeux vidéo rendent violents. C'est une grosse manipulation des médias aussi. Hein. Oui,
bien sûr.
C'est comme tout contenu violent. Quelqu'un qui n'est pas préparé psychologiquement à le recevoir, eh ben, ça va avoir des gros problèmes.
Et est-ce que c'est le fait que ce soit toi qui joue et qui ait les commandes, c'est pas pire que de regarder un film et de recevoir juste la violence et pas d'en être l'auteur? Je me pose la question, hein. C'est une vraie question.
Je pense que chez certains, ça peut exacerber ce côté un petit peu glamourisation de la violence. Voilà, on incarne un personnage. Y a beaucoup de jeux qui jouent sur la glorification de l'homme soldat, de l'arme humaine qui est capable de tuer des centaines d'ennemis à lui tout seul avec une mitrailleuse et un couteau. C'est sûr que ça vient appuyer sur des biais qui sont déjà existants. Il faut quand même être un petit peu réaliste là-dessus. Mais par contre, ça le fait chez une minorité de joueurs. Il faut aussi le savoir. Ça vient surtout appuyer sur deux biais aussi. Le biais de récompense. Donc, c'est-à-dire que le fait de s'accomplir, c'est très bien. Mais les jeux vidéo, ils vont appuyer beaucoup sur ce biais pour nous faire rester. Le fait de compléter.
Donc ça se transforme en addiction, en quelque sorte, une manipulation et... avec un système addictif.
Le but, c'est quand même que le joueur reste sur le jeu et donc du coup, on va lui donner plein de trucs à faire. Des fois, c'est carrément du vent, ça ne sert à rien, c'est pas amusant.
C'est pour qu'il reste.
Mais pour qu'il reste.
Bon, après, les réseaux sociaux utilisent les mêmes méthodes, les algorithmes.
Exactement.
De ce côté-là, on ne va pas incriminer les jeux vidéo tout seul parce que là, ça serait un peu se moquer du monde.
On peut juste dire que ça fait partie de cette logique-là
Ils ont les mêmes mécanismes
en général et du numérique qui vont te faire rester le plus possible devant ton écran.
C'est exactement le biais qu'utilisait un petit peu World of Warcraft, c'est-à-dire que par exemple dans World of Warcraft, il y a plein de métiers différents que votre personnage peut apprendre. Et il y a des joueurs qui avaient envie que tous les métiers soient montés, la jauge de chaque métier soit montée à fond. Et ça demandait des heures et des heures de travail, de trucs pas très intéressants. Aller cueillir des fleurs et faire griller du poisson, c'était pas le truc le plus intéressant du jeu.
Surtout que si maman demande, il n'y a pas question qu'il le fasse en plus, dans la vraie vie.
Écoutez, moi, il y a un jeu que j'adore, ça s'appelle Power Wash Simulator, et en fait, c'est un jeu de Karcher. On nettoie des dégâts, on passe le Karcher, et
c'est bien chez moi, je te prête mon Karcher.
Alors, dans la vraie vie, c'est pas en vie, mais alors là, c'est hyper satisfaisant de laver des trucs au Karcher, ça ne sert à rien.
Mais en vrai, c'est très satisfaisant aussi, je te le dis.
Oui,
moi j'aime ça.
Mais là, c'est moins salissant quand même,
c'est
vrai.
C'est ça,
et puis, il y a un souci aussi, c'est que ça joue beaucoup sur le biais de frustration. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, et là, on va avoir la toxicité et la mauvaise foi qui vont venir. Surtout quand on joue à plusieurs. Ah oui, mais si on perd, c'est à cause de telle personne parce qu'il est plus faible. Et souvent, il y a du chat vocal dans le jeu, il y a des messages. Et là, il y en a certains qui vont plus contrôler, qui vont
en venir
aux insultes. Moi, je me suis retrouvée même à pester contre des gens alors que je ne l'aurais jamais fait dans la vraie vie. Parce que ça pousse vraiment à bout.
Et on est chacun derrière son écran bien protégé, donc on peut se permettre d'autant plus de déraper.
Ouais,
d'accord. C'est comme les gens dans leur bagnole qui hurlent après les autres bagnoles. S'ils étaient en face, ils ne hurleraient pas comme ça.
C'est un peu ça le souci. C'est un petit peu... c'est un petit peu le côté protection anonymat qui nous permet de faire un peu n'importe quoi.
Totalement.
Et ça, il faut faire attention. Et puis bon, certes, ça développe la concentration, etc., mais il faut savoir qu'il y a certains jeux qui nous mettent dans des situations de stress constant. Avec de la musique qui est très forte. Par exemple, Doom, donc c'est un jeu très connu. Doom, c'est un jeu qui est très vieux, mais qui a été refait par les studios de Bethesda, il me semble, il y a quelques années. C'est un jeu où on incarne un monsieur en grosse armure qui débarque devant les sept portes des enfers et qui doit tuer des démons à tout va, avec du gros métal dans les oreilles, de la grosse tronçonneuse, des démons qui hurlent dans tous les sens. Et ça va dans tous les sens. Alors c'est très très défouloir, mais il faut savoir qu'on met notre corps en état de stress constant et qu'au bout d'un moment, le stress, on sait que ça a des conséquences qui peuvent être néfastes.
Donc il y a un moment, il faut des hormones désagréables pour le corps et même qui peuvent empêcher de dormir, ce genre de choses.
Faut pas jouer à Doom avant d'aller dormir, parce que là, on n'est pas prêt de dormir tout de suite. C'est pas une très bonne idée.
Est-ce qu'on a d'autres inconvénients ou est-ce qu'on passerait pas à notre pause musicale numéro 2 ?
Les inconvénients, je pense qu'on est déjà pas mal.
Eh ben allez, deuxième pause musicale.
C'est parti.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprints, c'était à n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Les couleurs du monde.
Auditeurs et auditrices de Caladma Radio, vous êtes toujours dans l'émission Les couleurs du monde. Et...
Excuse-moi, je t'avais pas, j'avais pas appuyé sur le bouton, t'entendais
ben
pas
alors.
Ma pauvre. Vas-y,
et
recommence.
Ben, je disais, auditeurs et auditrices de Caladma Radio, on est toujours sur 100.9 dans l'émission Couleurs du monde. Qui traite aujourd'hui du jeu vidéo. On est en compagnie de Claire et du prof Patrick.
Oui,
et
l'affreux prof Patrick.
Déjà, Claire, dis-nous un petit peu ce qu'on vient d'écouter, s'il te plaît.
Alors, on vient écouter une chanson qui s'appelle Nouveau Monde du groupe Feu Chatterton, qui est un groupe français.
Mm-hmm. Ok, et alors qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette chanson ?
Qui traite un petit peu de cette idée d'un nouveau monde dans lequel on vit entouré de pixels. Et comme on parle du jeu vidéo aujourd'hui, ça me semblait très à propos.
Eh bien, tout à fait.
D'accord.
Merci, Claire.
Parfait.
Alors, c'est le moment de passer à notre troisième partie sur les modèles économiques qui sont en jeu. Moi, j'ai entendu dire récemment que le dernier GTA, là, qui va sortir bientôt, il a coûté plus de 2 milliards de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Ça
les,
me paraît
les coûts de développement
totalement
des
ahurissant.
Jeux sont très supérieurs aux coûts de développement des films, par exemple. On est sur une industrie, mais bien plus énorme.
Tout à fait.
Alors, l'industrie du jeu vidéo, ça représente 188 milliards de dollars à l'heure actuelle. Est-ce que vous savez combien représente le cinéma en comparaison ?
Vas-y.
Bien moins. Je ne sais pas, je ne sais pas le chiffre.
Environ 30 milliards.
Ah ouais,
c'est
folie,
dingue.
Donc on est très,
impressionnant.
Très loin.
Et alors, attends, moi j'ai une première question. C'est que dans ce coût, est-ce qu'on a que les coûts de développement ou est-ce qu'on a aussi le coût publicitaire ?
Alors là, je ne pourrais pas te dire, pour l'instant, je ne sais pas si les coûts publicitaires ont été évalués dans ce coût de plusieurs milliards. Mais bon,
alors,
la publicité, elle va se faire un peu
toute
seule.
Je peux faire une petite parenthèse, parce que là, on a appelé cette partie les modèles économiques, quand même expliquer aux auditeurs. Un modèle économique, c'est comment une entreprise fait pour créer, gagner de l'argent, générer du profit. Voilà,
tout à fait.
Fin de la parenthèse.
Merci beaucoup, prof Patrick.
Vas-y, Claire, à toi.
Eh bien oui, parce qu'un jeu vidéo, à la base, on achetait son jeu, un certain prix, et puis voilà, on avait son jeu sur sa petite galette qu'on mettait dans sa console ou dans son PC. C'est ce qu'on appelle un stand-alone, ça veut dire que on a son jeu en intégralité.
Okay.
Et puis, à la fin des années 90, on a commencé à avoir un modèle qui s'est un petit peu développé, qui s'appelle le DLC. Donc DLC pour Downloadable Content, contenu téléchargeable supplémentaire.
D'accord.
Qui pouvait être gratuit, mais très vite est devenu payant. Et donc, c'était, est-ce que tu voudrais cette petite armure pour ton cheval ? Paye de $2.99.
Okay.
Est-ce que tu voudrais cette belle armure pour ton paladin ? Paye tant. Donc ça, c'était du contenu en plus. Ça,
qui c'est s'ajoutait au jeu qu'on avait déjà acheté.
Exactement.
Et ça, d'accord, ça date de la période où les jeux sont passés en ligne, c'est bien ça ?
Oui,
et
bah, oui,
auparavant, ce n'était pas possible. Là, à partir du moment où on est en ligne et où on peut finalement rentrer une carte de crédit rapidement dans son PC ou même dans sa console, j'imagine, eh bien, on peut payer finalement en direct depuis sa console. Hein. C'est-à-dire que tu peux acheter ton armure... En cours de jeu, t'as même pas besoin de te déplacer, c'est ça ?
Exactement.
Oui, comme quand t'achètes n'importe quoi sur Internet, hein, c'est le même principe, hein, de toute façon.
De toute façon, voilà, le but... Alors, au début, c'était une petite armure pour le cheval et pour le Gugus, mais au bout d'un moment, les studios ont commencé à vendre des quêtes supplémentaires, des morceaux d'histoire à faire en plus.
Ok.
Et ça, c'est un petit peu comme les chasseurs, comme dirait l'autre. Bah, il y a les bons DLC et les mauvais DLC.
D'accord.
Il y a les bons DLC, par exemple, je prends encore l'exemple de Witcher, mais dans Witcher 3, on a deux excellents DLC qui ont accompagné le jeu, qui rajoutent plus d'une vingtaine d'heures de contenu dans des lieux qui ont été développés en plus, etc. Donc ça, c'était vraiment des DLC.
Il y a un vrai enrichissement du jeu, là.
C'est comme une extension dans un jeu de plateau, finalement.
Exactement.
Ok.
Sauf qu'il y a des extensions, en fait, on te vend un petit peu du cosmétique.
Oui.
Et ça sert pas à grand-chose.
Ok.
Alors, on a des studios qui se rémunèrent, ils vont vendre leur jeu à un certain prix, et ensuite, ils peuvent rajouter du contenu payant en plus. Et puis, il y a des jeux gratuits. Par exemple, Fortnite est un jeu gratuit où tout le monde peut télécharger Fortnite et jouer gratuitement. C'est ce qu'on appelle du free-to-play.
Free-to-play.
Gratuit
d'accord.
pour jouer.
Gratuit pour jouer, ouais, d'accord. Okay.
Et on se dit, mais attendez... ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, ces
exactement.
Studios. Il faut bien qu'ils rémunèrent.
C'est quoi leur business model ?
Et du coup, ils vont jouer sur tous nos biais qu'on a vus un petit peu avant pour se faire de l'argent.
Alors, tu peux développer ?
Ils vont jouer sur plusieurs biais. Et là, on va avoir notamment le biais d'appartenance. Donc, l'idée, c'est qu'on a envie de faire partie d'une communauté et on a envie de montrer qu'on fait partie de la communauté. Et ça, ça passe par ce qu'on appelle les skins. Ah, est-ce que c'est
qu'est-ce
ce que c'est ?
Skin, en anglais, ça veut dire la peau. Mais enfin, je pense que c'est un autre sens, ici.
Et ici, ce sont les apparences.
Les apparences,
donc,
d'accord.
Par exemple, vous voulez cette arme en bleu, avec des petits motifs. Vous voulez que votre personnage, il ait une tenue de chevalier médiéval.
Ce serait la tenue de ton équipe, finalement.
Et oui, donc l'idée, ça serait un petit peu d'acheter des skins pour montrer...
Donc, les free-to-play, il y a aussi du DLC. Ils gagnent leur vie sur les trucs que tu achètes.
Exactement, ils vont gagner leur vie sur des choses que tu vas acheter en plus, qui
d'accord.
vont enrichir l'expérience.
Okay. Mais tu vas les acheter dans le jeu ? Ou est-ce que ça peut être, un t-shirt Fortnite que
non,
tu mets sur
non,
toi ?
Non, c'est dans le cadre
alors,
du jeu. Bah,
là,
pas.
Moi, je parle que de choses qui sont dématérialisées,
d'accord.
parce qu'évidemment,
okay.
il y a du merchandising physique.
Oui, il me semble aussi que ça va jusque-là.
Oui, ok.
Là, par exemple, un skin. T'as envie de t'habiller en citrouille pour Halloween, on sort un skin de citrouille, tu l'achètes pour $2.
Ok.
Alors, plus le niveau de rareté des skins est élevé, plus les skins sont chers. Et sur Fortnite, on peut avoir des skins à plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Ah oui ?
Ah ouais.
D'accord.
Donc c'est comme ça qu'ils font leur beurre, finalement.
Exactement. Voilà, et puis en plus, ils jouent sur ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. C'est l'idée de louper l'occasion. Donc,
si tu l'achètes pas, c'est trop tard. Il n'y en aura plus.
Il est limité. T'as 3 jours avec un petit compte à rebours pour l'acheter.
Ok.
Évidemment.
C'est malin, ça.
Alors, il y a aussi un autre biais, c'est la frustration du joueur. Le jeu est super bien, et puis d'un coup, il devient super dur.
D'accord.
Ah ouais.
Et si, pour te rendre ta progression un peu plus facile, t'achetais un petit booster qui fait que ton personnage, il gagne de l'expérience plus vite et qui va devenir plus fort vachement plus vite.
Ah ça, c'est Roblox. Mon fils, il a demandé des Robux là, pour son anniversaire, donc j'ai limité la chose, mais j'ai dit un peu.
C'est le même principe.
Et, en fait, il reçoit une carte donc, qui est payée par, en l'occurrence, ma famille, qui lui a donc payé cette carte. Et avec cette carte, il va avoir des crédits dans le jeu, il va pouvoir booster son personnage.
Ah, ok, d'accord.
Exactement.
Et c'est quoi le jeu dont tu parles ?
C'est Roblox.
Roblox,
les
d'accord.
Robux, en fait, c'est la monnaie de Roblox.
D'accord.
Alors, la monnaie virtuelle, on va en parler juste après. Il y a aussi, alors je vais vous donner le cas d'un jeu qui est très très connu, qui s'appelle Battlefront 2. Donc Battlefront 2, c'est dans l'univers de Star Wars. C'est des champs de bataille où on a des personnages qui vont s'affronter, des armées qui vont s'affronter. Et l'idée, c'est que vous allez jouer un petit peu le pecno de base, donc soit un droïde tout nul, soit juste un résistant qu'on connaît pas. On a envie de débloquer Dark Vador, on a envie de débloquer Luke Skywalker, mais en fait, pour débloquer ces personnages, il faut énormément de temps de jeu.
D'accord.
Et ce jeu, il est très connu parce qu'apparemment, pour débloquer tout le contenu, il faudrait jouer plus de 4000 heures au jeu. Et donc, il y a des sociétés de consommateurs qui se sont révoltées, qui ont dit que c'était inadmissible, parce qu'en fait, le jeu te dit t'as pas envie de jouer à peu près 1000 heures pour débloquer Kylo Ren, tu peux payer pour avoir Kylo Ren. Et ça joue sur ta frustration, t'as envie de jouer Kylo Ren. T'as plus envie de jouer le vieux droïde tout nul au milieu des autres.
Donc ils offrent des raccourcis payants pour gagner 1000 heures d'un coup, etc.
Exactement, c'est ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le pay to fast.
Payer pour aller
plus vite.
D'accord, ok.
Alors on a parlé des monnaies virtuelles. Les monnaies virtuelles, ça joue sur le floutage des valeurs.
Alors, c'est quoi ça exactement ?
C'est-à-dire qu'en fait, pour payer des choses dans le jeu, on a une monnaie dans le jeu que le personnage gagne en faisant des actions, donc par exemple des pièces d'or. Il fait, on va prendre le jeu Farmville. Farmville, c'est un petit jeu qui était accessible sur Facebook pendant très longtemps. Okay. On a une petite ferme et puis on va faire des petites actions dans la ferme pour gagner de l'argent et agrandir notre ferme. Et le but, c'est d'avoir une ferme qui nous plaît, etc. Et bien, dans Farmville, vous allez gagner des petites pièces d'or en vendant vos carottes. Mais pour planter votre champ de carottes, vous allez acheter la parcelle. Et pour débloquer la parcelle, il faut attendre qu'elle se débloque. Il faut attendre 10 minutes. Mais si vous n'avez pas envie d'attendre 10 minutes, vous pouvez débourser des gemmes. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces gemmes ? Eh bien, ces gemmes, c'est ce qu'on appelle une monnaie virtuelle.
Ok.
Pour avoir des gemmes, il faut payer avec de l'argent réel.
Bah oui, c'est une blague.
Évidemment, c'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Et le truc, c'est que le jeu, en général, il va vous donner 2-3 gemmes au début pour vous donner un peu l'odeur du truc.
En fait,
il
nous appâte.
Il vous appâte. Et puis après, ils vont te dire « Ah mais non, mais pour débloquer ton champ, t'as 2 gemmes gratuites, mais il faudrait 4 gemmes. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ? « Oh, j'ai pas envie d'attendre, ça va pas coûter très cher, c'est une petite micro-transaction. » Je vais dans la boutique du jeu. Et là, je vois que pour acheter des gemmes, je peux en acheter des packs. Mais le seul pack que je peux acheter, c'est soit des packs de 2 gemmes, soit des packs de 10 gemmes. Puis si j'achète le pack de 10 gemmes, il est moins cher. Alors du coup, je vais acheter le pack de 10 gemmes.
On va bientôt conclure sur cette partie-là de modèle économique. Tu n'as pas un modèle qui s'appelle le freemium, là, tu voulais nous parler
Exactement ce que je viens de vous dire.
En fin de parcours, c'est ça ?
Le freemium, en fait, c'est l'idée du free-to-play, mais en fait, pour avoir l'expérience optimum du jeu, ne pas attendre, ne pas être frustré, je vais faire des micro-transactions dans le jeu.
Ok, donc le free-to-play mène au freemium par tous ces systèmes que tu nous as présentés.
Exactement.
Et j'imagine qu'on te fait acheter un pack de 10, mais qu'on va t'en faire utiliser 2, puis 3, puis etc. Mais qu'au bout du bout, il va t'en rester un seul et t'auras pas assez. Il faudra en acheter un autre pour faire l'étape suivante. Je dis des bêtises ou pas ?
C'est à peu près ça.
C'est exactement ça.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Claire. Merci aussi
au prof
Patrick.
Merci de ton expertise, Claire. On y comprend mieux.
Nous faire la technique et participer à cette émission.
C'est un plaisir.
Auditrices et auditeurs de Caladma Radio, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Couleur du Monde.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.